Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Voici donc la chronique du groupe Fred Zeller qui aura été enregistrée cette fois-ci, un petit peu en avance, c'est-à-dire le vendredi 29 mars. Et je vous propose, pour commencer cette chronique, de porter à votre connaissance les propos qui seront servis en quelque sorte aux convives du banquet gras se tenant le vendredi 29 mars au soir à Périgueux. Voilà donc ce qu'il est proposé à nos convives sur ce plan. Chers camarades, chers amis, citoyennes et citoyens, mécréants et mécréantes, nous sommes réunis ici pour manger gras, un jour de carême, ce vendredi que les catholiques nomment saint pour consommer de la viande un jour où elle prescrit de se contenter de poisson. Notez que la Macronie a bien aidé à faire maigre tout au long de l'année, tant le pouvoir d'achat a diminué et les prix augmentés, même celui du poisson. Puisque vous êtes venus ici, tant de mécréants, il faut que je vous enseigne quelques préceptes indispensables. Les interdits alimentaires pullulent dans les textes dits sacrés. L'Ancien Testament pour les Juifs, le Nouveau Testament pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, les Védas pour les hindouistes, les Pitaka pour les bouddhistes. Interdits permanents, le porc chez les musulmans et juifs, la vache chez les hindouistes, le chien en Afrique, ou temporaire pendant les jeûnes rituels des chrétiens et musulmans. Essayons quand même de comprendre le diable. Jésus dit, Christ aurait été crucifié la veille du Shabbat, samedi, donc un vendredi. L'anniversaire de sa mort est cependant mobile, puisque Pâques est fixé, tenez-vous bien, le premier dimanche après la première pleine lune qui suit le début du printemps, également connu sous le nom de l'équinoxe de printemps. Ce qui fait que le Christ meurt chaque année à une date différente. Étant, depuis les conciles de Nicée et de Chalcédoine, de nature à la fois divine et humaine, rien ne lui est impossible. En tout jeûne de 40 jours, il a pour but d'expier nos péchés que le Christ, entre guillemets, a rachetés par sa mort. Était-ce donc un rachat enviagé? N'est-il plus valable? On s'embrouille. Le commandement de faire maigre à Pâques et le vendredi saint, entre guillemets, sont renouvelés au XXe siècle. Pie XII, en novembre 1947, entre deux absolutions de nazis et quelques pieuses exfiltrations, pond une encyclique intitulée « Mediator Dei » sur la question, reconfirmée par Paul VI, Sacro Sanctum Concilium, en 1963, lors de Vatican II, puis par Ratzinger dit Benoît XVI, second pape démissionnaire et premier pape retraité de l'histoire. On ne peut contester à l'Église d'avoir de la suite dans les idées. Heureusement, de nos jours, en dehors de catholiques très pratiquants dont le nombre décroît inexorablement, tous les gens raisonnables et sensés s'en moquent, et c'est ce que nous faisons ce jour. Mais nous continuons à dénoncer l'absurdité, l'incohérence et l'irrationalité de ces commandements, nés dans une lointaine antiquité et marqués par les luttes de pouvoir de sectes et de fractions. Romains, Byzantins, Ariens, Marcionites et une foule d'autres les ont modelés au gré de leurs intérêts du moment, récupérant au passage les fêtes païennes et juives pour les christianiser. Alors, pourquoi ne pas se contenter d'en rire? Comme le disait Philippe Besson, notre conférencier à Bourou le 17 février dernier, nous nous intéressons à ce que fait l'Église car l'Église s'intéresse à nous. Si les cléricaux ont dû baisser la garde sur les interdits alimentaires et le carême, ils persistent à vouloir imposer leur morale préhistorique à tous les aspects de la vie, de la naissance à la mort. Ils persistent à offrir leur service à tous les gouvernements réactionnaires, ou de l'autre, pour que ce ne soit pas remis en question le système d'exploitation capitaliste auquel ils s'abreuvent. Macron ne demande pas mieux. Pour réparer entre guillemets le lien entre l'Église catholique et l'État, il est allé escalité à la messe du pape à Marseille en septembre 2023 pour aider l'Église à reprendre position dans les affaires publiques. Il a soutenu sa catholique et richissime mais très éphémère ministre de l'Éducation dans son mépris de l'enseignement public. Ils ne cachent même plus leur volonté de redonner préférentiellement à l'Église l'éducation de nos enfants. En 2024, encore 9,35 milliards d'euros de fonds publics seront versés à l'enseignement privé, à 96% confessionnel. La Libre Pensée, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et plein d'autres leur infligeront une nouvelle défaite, celle de la légalisation de l'aide active à mourir. Fonds publics exclusivement pour l'école publique. pour la liberté de conscience, abrogation de toutes les lois liberticides, contre le militarisme et l'endoctrinement, non au SNU. De Gaza à l'Ukraine, crossons l'air et rompons les rangs, cessez le feu partout. Les armes doivent se taire pour que l'humanité vive et survive. Alors, c'est la conclusion de ce discours aux convives participants au repas grand organisé par le groupe Frenzeler. Alors, nous allons faire bon banc ce soir contre les interdits alimentaires, mais en se situant dans le vaste combat pour l'émancipation humaine. Allez, bon appétit les libres mangeurs, et n'oublions jamais, ni lieu d'y mettre, pas bon la calotte, et vive la sociale. Et je voudrais donc maintenant poursuivre cette chronique par la lecture d'un communiqué de l'AILP, l'Association internationale de la libre pensée. Et voici ce qui est dit. L'Association internationale de la libre pensée a une représentation au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et à l'Organisation internationale du travail. Elle participe aux différentes sessions et y intervient régulièrement. L'AILP était donc présente à la 54e séance du Conseil des droits de l'homme de l'ONU lors de l'examen périodique universel qui examinait le cas de la France le 1er mai 2023, donc bientôt un an. 123 pays dont ont produit 355 recommandations à la France portant essentiellement sur ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, retirer sa déclaration concernant l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et sa déclaration relative à l'article 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, envisager de lever ses réserves à l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cesser d'exploiter les mécanismes nationaux et internationaux pour alimenter les conflits et s'immiscer dans les affaires intérieures des États sous prétexte de défendre les droits de l'homme. Continuer de s'employer à réduire les disparités économiques entre les territoires d'outre-mer et la France métropolitaine. Œuvrer davantage pour que les Mahorais jouissent pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d'égalité avec le reste de la population française. Redoubler d'efforts pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale, prendre des mesures plus efficaces pour combattre les discours de haine et l'intolérance, lutter contre les infractions qui y sont liées et poursuivre les responsables. Prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les pratiques discriminatoires et racistes à l'égard des étrangers, des minorités ethniques et des immigrés. Éliminer tous les obstacles qui empêchent ces groupes d'accéder dans des conditions d'équité et d'égalité à l'éducation, à la santé et aux services d'emploi, et favoriser leur représentation dans divers domaines et à tous les niveaux. Continuer à lutter contre les pratiques abusives et discriminatoires des forces de l'ordre, continuer de lutter contre le recours excessif à la force par les autorités chargées du maintien de l'ordre et de veiller à ce que l'usage de la force obéisse aux principes de nécessité et de proportionnalité. Repenser les politiques de maintien de l'ordre afin d'éviter l'usage excessif de la force par les agents des forces de l'ordre lors des manifestations. Prévenir l'usage excessif de la force par les fonds de sécurité, notamment à l'égard des manifestants et des journalistes, en amenant la police à pratiquer la désescalade et rendre les organes de contrôle pleinement indépendants et les contraindre à diffuser publiquement des statistiques. Rien que ces recommandations montrent comment la France et ses gouvernements sont perçus à l'étranger. Et donc, on pourrait retrouver sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée la liste complète des 355 recommandations adressées à la France et à son gouvernement, qui est donc maintenant un document tout à fait disponible. C'est un véritable réquisitoire condamnant la politique réactionnaire de la Ve République. Si en France, circuler, il n'y a rien à voir, l'opinion publique internationale commence à se mobiliser contre la politique répressive, réactionnaire, xénophobe d'Emmanuel Macron. La libre pensée, présente à toutes les manifestations pour l'abrogation de la loi raciste et xénophobe Macron-Darmanin, assure les travailleurs immigrés de sa totale solidarité militante. Et donc, ce communiqué est daté de Genève le 25 mars 2024. Et je vous propose maintenant de poursuivre en abordant le nouveau numéro de L'Idée Libre, cette revue trimestrielle que j'affectionne tout particulièrement. Le nouveau numéro, donc daté de mars 2024, a comme dossier un dossier donc qui est intitulé « Sciences, politiques et religions ». Et je vous propose donc d'extraire un article de ce numéro de L'Idée libre, l'article qui a été rédigé par Maria Montello au sujet de Giordano Bruno. Giordano Bruno, la force de la raison, le courage de la liberté. Giordano Bruno, il y a 420 ans, après de longues années d'emprisonnement et de souffrance, il fut également soumis à la torture au moins à deux reprises, en mai 1905, en 1597 et en septembre 1599, ténu et la langue immobilisée dans un bâillon, était conduit de la prison du Saint-Office au Campo dei Fiori pour être brûlé vif. C'était à l'aube du 17 février 1600, et l'Église catholique qui avait voulu cette mort atroce célébrait cette année-là son jubilé. Et voilà donc ce qu'écrit Maria Montello. Le Saint Tribunal de l'Inquisition romaine, présidé par le pape en personne, l'avait condamné au bûcher parce que, citation, « hérétique, impénitent, obstiné ». Et ses écrits, mis à l'index des livres interdits, furent aussi livrés aux flammes. Ce sont les années au cours de laquelle l'Église, par le biais de sa machine inquisitoriale, laquelle s'alimentait de la délation et un climat de suspicion permanente, de la terreur, du bûcher et des tortures parfois plus cruelles que la mort, déclenchait l'une des plus lourdes attaques répressives contre ceux qui osaient penser par eux-mêmes et revendiquaient le droit de choisir des visions du monde et des comportements de vie non conformes à ses propres conceptions. Bruno ne pouvait que se heurter au pouvoir dominant parce qu'il assumait la préoccupation de la démarche première de penser. Et la préoccupation avait trouvé sa définition dans sa comédie « Candelaio, le chandelier ». Un mot unique, « préoccupation », qui est une synthèse parfaite du philosophe. Ce mot devint le monogramme existentiel de qui ne subit pas le monde, mais vit dans le monde et agit dans le monde. Sans le démon de la préoccupation contre le conformisme, le fidéisme, Bruno n'aurait pas pu mener à terme sa philosophie révolutionnaire. Une pensée qui oblige à faire le point. Un philosophe qui a fait peur et qui fait encore peur à beaucoup par son extraordinaire actualité. Une pensée qui oblige à nous confronter à nos propres petitesses et étroitesses d'esprit. Parce qu'elle n'admet pas de zone grise, parce qu'elle est un acte d'accusation contre l'opportunisme, la pusillanimité, limiter la résignation qui produise, écrit Bruno, et citation, la servilité qui est une corruption contraire à la liberté et à la dignité humaine. Sa philosophie fait peur parce qu'elle est une condamnation sans appel de qui voudrait voir en l'humanité une éternelle mineure. Troupeau, bonne, poussin, poulain, ce sont les mots qu'utilise Bruno. Une éternelle mineure, incapable de comprendre et de vouloir, ayant donc besoin de parrains, de pères protecteurs, de pères éternels, lesquels sont d'autant plus dangereux qu'ils sont tout-puissants. Une humanité à genoux, dans l'espérance du miracle et des intercessions des oints du Seigneur, lesquels se complaisent dans le trafic des biens spirituels et des charges ecclésiastiques. Bruno met à nu les mécanismes psychologiques et consolateurs, qui réduisent les hommes à l'état d'âne obéissant, se faisant, citation, mener, écrit-il, avec la lanterne de la foi, aliénant leur intelligence à celui qui leur monte dessus et qui, de cette belle position, les bride et les guide. Fils du Vésuve et de la colline de Sicala, philosophe et poète italien, unique esprit vraiment libre, ainsi le définit Cyrano de Bergerac dans son ouvrage « L'autre monde » ou « Les états et empires de la lune et du soleil » 1657-1662. Mais même lui, pourtant un philosophe libertin, n'ose encore prononcer le nom de Giordano Bruno. Le Nolin n'a même pas été considéré comme un frère par Galilée, qui pourtant a pioché à pleine main dans le Sénat des Sénéries de Bruno pour sa théorie de la relativité primaire. Shakespeare est contaminé par la philosophie révolutionnaire du Nolin. L'univers brunien, avec un ciel infini et la matière créatrice, est en fait plus qu'un rêve d'amour, dans son dernier « Antoine et Cléopâtre ». C'est encore dans un autre de ses comédies, dans une autre de ses comédies « Peine d'amour perdu », que la conception de l'autonomie de l'État par rapport au confessionnalisme est clairement une reprise du spatio della Vesta, triomphante de Giordano Bruno. Mais même Shakespeare, qui a certainement connu le Nolin à la cour d'Élisabeth, ne le nomme pas. Giordano Bruno est un intellectuel gênant, parce qu'il condamne le mensonge et l'hypocrisie, surtout quand ils proviennent du vénéré monde de la culture, transformé par des pédants serviles en académie de la pensée unique. Bruno polémique continuellement et publiquement avec eux, Ils les ridiculisent dans ces dialogues. Plus ils en savent et sont imbibés de fausses informations, plus ils pensent savoir et livrent leurs principes, connus, prouvés, sans démonstration. Giordano Bruno est gênant parce qu'il fait taper à la face des baronnies familiales, des laquais du régime, leur responsabilité dans la décadence politique et morale. Il dit « Le savoir et la justice se mirent à quitter la terre » quand les savants, organisés en coterie, commencèrent à utiliser leur savoir pour faire du profit. De là, il advint que les États, les royaumes et les empires furent bouleversés, ruinés, les bandits alliés aux sages et aux peuples. Nous pensons au désarroi des théologiens qu'on passait, confrontés à cet intellectuel anormal, qui aurait pu vivre tranquillement sa carrière de professeur, mais pour qui le thomisme était taillé trop étroit. Ce qui les perturbe au plus haut point est son refus de toute censure, son opposition à leur mystification linguistique, son expression claire, parce que le langage pour Bruno n'est pas un formalisme, mais un instrument de connaissance. C'est une enivrante recherche multilingue, une capacité à se débrouiller admirablement dans le mélange des registres stylistiques, dans les rapprochements lexicaux audacieux, caractéristiques de ce qui parvient à faire du mot l'instrument de communication d'une pensée nouvelle, perturbatrice. Le mot est une invention et un instrument d'élaboration des concepts parce que l'on pense avec les mots, on communique avec les mots et Giordano Bruno invente l'expérimentalisme linguistique. Il écrit « C'est notre liberté de nommer comme il nous plaît et de limiter les définitions et les noms à notre enjeu. Et encore, les règles servent à ceux qui sont plus aptes à imiter qu'à inventer. Tu conclus bien que la poésie ne naît pas dans les règles, mais les règles proviennent de la poésie. En somme, à une esthétique maniériste qui phagocyte le contenu dans la pédanterie et la règle, Giordano Bruno oppose le peintre philosophe qui écarte les choses dans l'obscur et les définit et redéfinit dans le vertige des possibilités combinatoires du signifié et du signifiant. La polémique contre les pédants, chers, théologien, grammairien, laquais du pouvoir, est très forte chez les Nolin. Ils sont la folie du monde, la vaine négation du bon sens et de la rationalité, avec leur réintroduction stupide de l'accumulation du prédéterminé, bien sûr, éternel et révélé, si utile au pouvoir dominant auquel ils se vendent. Citation. Ils sont un bon marché comme les sardines, qui écrit-il dans De la causa principio et uno. Car, de la même façon, que, sans trop de fatigue, on produit, trouve et pêche ces dernières, on les achète pour quelques pièces. Ce sont les Frulla, les Poldimio, les Prudenzio, les Manfurio, personnages masques des extraordinaires chefs-d'œuvre philosophico-littéraires de Giordano Bruno. Ils sont forts avec les faibles et très faibles avec les forts. À leur paresse intellectuelle et morale, Bruno oppose le courage de penser, le courage de dire ce que l'on pense, le courage d'être cohérent avec les conclusions de la pensée en la transformant en action, et cela afin de libérer les individus de la soumission intellectuelle et sociale. Bruno veut un monde d'individus pensants et libres. Voilà pourquoi il a accueilli avec enthousiasme la révolution copernicienne qu'il développe et amplifie dans son extraordinaire infini. Dans toute une série de révolutions successives et concentriques, les voici de façon synthétique. Au principe divin, il substitue la nature, matière, vie autosuffisante, donc parfaite, divine, dans sa capacité autonome et infinie de générer les phénomènes infinis. Dans la nature ne se crée et rien ne se détruit. C'est l'ABC de la science. N'en déplaise aux rêveurs anti-historiques qui, avec la fable du dessin intelligent, intelligent design, voudraient qu'à l'école, au lieu de Darwin, on étudie le créationnisme. À la connaissance préétablie en relation avec l'homme créé, il substitue la matérialité de l'esprit, fonction biologique du corps. En somme, comme dira Crick, le découvreur avec Watson de la chaîne de l'ADN, comme la bile est une sécrétion du foie, l'homme est une sécrétion de l'esprit. Contre le confessionnalisme du précepte, il revendique la liberté de l'éthique intégrant l'autonomie et l'autodétermination pour chaque être humain, car chacun est le propriétaire de sa vie, responsable du projet de vie qu'il veut pour lui-même, dans tous les cas et toujours, n'en déplaise aux parrains de l'homme. À la politique du pouvoir de quelques-uns, il oppose celle de la citoyenneté de tous, sorti de la cage du géocentrisme, où on leur avait tronqué les ailes, si dit-il. Les êtres humains peuvent finalement prendre leur envol et se libérer des chimères, ajoute-t-il, d'un ciel supérieur et d'une terre inférieure. Et le Nolin appelle chaque être humain à prendre cet envol pour expérimenter l'infinie possibilité de penser, connaître, agir, pour devenir, citation, en pouvant former d'autres natures, d'autres cours, d'autres ordres avec l'intelligence, les coopérateurs de la nature agissante. Fin de citation. En pénétrant dans les lois physique de la matière, vie, où tout est corps animé et où l'infinie transformation se caractérise dans sa particularité phénoménale. La nature, matière mère, qui infiniment donne jour de ses entrailles à des formes, n'a besoin de rien d'autre que d'elle-même. Elle est autosuffisante dans la constance de son autofabrication autonome. Elle est parfaite, divine, en elle-même. Il n'y a plus besoin de créationnisme, ni de providentialisme, ni de finalisme, ni des théories de qui prétend fixer l'univers et l'humanité sous une chape étouffante de minorités protectrices. Le Nolin a déchiré le voile, et la fable des imaginaires essences consacrées se brise sur cette matière-vie infinie, totale, universelle, être, dont chaque être humain, dans sa matérialité, fait partie, et peut connaître par lui-même, dans sa matérialité. Et en cela, il est magicien, il est un dieu par lui-même. La magie de Bruno est connaissance. Elle est un développement de la capacité d'investigation et de recherche pour analyser les liens chimiques des éléments naturels, des profondes connexions causales entre toutes choses. Et il dit, la magie est la contemplation de la nature et la découverte de ses secrets. Et notre philosophe, alors même que tous les autres ne savaient rien de la chimie et de la pharmaceutique, écrit, j'approuve ce que l'on fait physiquement, que l'on procède par des formules d'apothicaire, pharmaceutique, j'admets ce que l'on fait chimiquement, excellent et vrai, ce qui non seulement est physique, mais aussi chimique et mathématique. Telle est la magie pour Giordano Bruno, à l'opposé de la magie des désespérés, de ceux qui invoquent des supposées intelligences occultes avec des rites, des prières, des formules. La magie est alors art de la connaissance, magie de connaissance, pouvoir médiatif qui s'est tissé des interconnexions représentatives. C'est la mémoire raisonnée qui développe la pensée problématique, qui élabore des jugements fondés, qui ouvre sans cesse de nouveaux espaces à la connaissance, pénétrant dans des chemins inexplorés, car, écrit-il, elle sélectionne, applique, met en forme, ordonne. Et Bruno souligne la matérialité de ce procès intellectuel, la recherche raisonnée des faits particuliers, consiste à s'approcher le premier de la nourriture, leur disposition parmi les sens externes et internes, c'est une forme de digestion, pour progresser dans les opérations de l'intelligence, pour voir avec les yeux de l'intelligence. Ce sont les citations. Dans ce procès incessant de décomposition et de recomposition, synapse, les atomes corporels mentaux, il les appelle lui-même ainsi, la mémoire donc, connaissance du nouveau. Son exercice continu, les transmigrations conceptuelles se succèdent des cycles cognitifs achevés qui sans cesse s'ouvrent encore à de nouveaux cycles d'acquisition diversifiés, les transmigrations pythagoriciennes dont il parle. Mais pour que cela arrive, il est nécessaire de surmonter, citation, l'habitude de croire, obstacle majeur à la connaissance. De là sa puissance polémique antichrétienne. La pédanterie, dit Bruno, est seulement l'effet de la foi stupide. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes? Pourquoi ceux qui ne le sont pas encore semblent-ils faire tout leur possible pour le devenir? Que demande Bruno dans la cabale du cheval Pégase. Et pour que tous puissent comprendre, comme dans une fable, il décrit la métamorphose de ces ignorants. Ils cesseront de marcher, croiseront les bras, fermeront les yeux, banniront toute attention et toute étude, réprouveront toute pensée humaine, renieront tout sentiment naturel, et pour finir, deviendront des hommes. Et ceux qui ne l'étaient pas se transforment en cet animal. Ils lèveront, allongeront, tailleront en pointe, épaissiront et magnifieront les oreilles, et tous les pouvoirs de l'homme se reportent et s'uniront dans le ouïr, c'est-à-dire écouter et se limiter à croire. C'est la fin de citation. C'est la foi qui est la cause de l'imbécilité collective, de la décadence et de la corruption de la société. Bruno le dit avec clarté. Elle est habituée à la contrainte de croire et d'obéir aux têtes ointes, est couronnée. C'est la foi, en somme, qui transforme en âme, qui réduit l'humanité au statut d'âme. Citation. Qui sont les appelés? Qui sont les prédestinés? Qui sont les sauvés? Écrit Bruno, donc, dans la cabale du cheval Pégase. L'ânesse, le bâton, les simples, les pauvres d'esprit, les petits-enfants, ceux-là qui tiennent un discours d'enfant, ceux-là entrent dans le royaume des cieux en raison du mépris du monde. Bruno, comme personne avant lui, dévoile et dénonce le mécanisme de la promesse du ciel comme un puissant narcotique utile à la domiciliation, à la domination, pardon, des consciences et au maintien du pouvoir. Ils conduisent à l'au-delà et consacrent ce qui est mien et ce qui est tien dans l'ici-bas. Il faut alors s'engager à chasser l'esprit obtus de la foi stupide par un renouvellement radical. C'est alors qu'il devient possible d'œuvrer au retournement de l'homme croyant à l'individu conscient. La condition du non-savoir, préalable à la révélation du mensonge des absolus, fait si bien que le vraiment de l'âme peut devenir un cri panique qui tient éloigné les ennemis de la connaissance. La patiente ténacité de l'âne devient la force de la raison qui grimpe le long des sentiers impénétrables, inexplorés de la recherche. Les oreilles d'âne, d'instruments passifs de l'écoute catéchistique, deviennent un formidable moyen pour recueillir les faits, les travailler, les interpréter. Tout un chacun possède un intellect et des mains, affirme Giordano Bruno, mais c'est la main, l'énergie, l'agir qui nous rendent intelligents. Christian René du prix Nobel de médecine en 1974 écrit « L'homo sapiens qui possède la connaissance descend de l'homo habilis qui savait se servir de ses mains ». Une belle reconnaissance de notre Giordano Bruno qui, à propos d'évolution, des siècles avant Darwin, écrivait que sans la main, citation, « l'homme ramperait au lieu de marcher, creuserait une cavité au lieu d'édifier un palais, et ce n'est pas une pièce qui lui conviendrait, mais un trou ». Et encore, où seraient les institutions de doctrine, les inventions de discipline, les assemblées de citoyens, les structures des édifices et tant d'autres choses qui représentent la grandeur et l'excellence humaine? Tout cela, si tu regardes avec circonscription, ne se rapporte pas tant à la dictée de l'intelligence qu'à celle de la main, organe des organes. En somme, c'est l'action qui fait la différence. Et c'est sur le primat de l'agir que Bruno présente sa réforme politico-sociale. En invitant à construire des républiques, à éliminer les injustices, parce que le paradis, écrit Bruno, il faut le construire sur terre, ou du moins chercher à rendre la terre moins infernale. Et alors, voici qu'à la religion du règne des cieux, Bruno oppose la religion civile, qui est le lien politico-social, le lien humain pour vivre dans la paix et la sérénité. Dans la pacifique cohabitation civile, où, soutient le Nolin, la tranquillité de la vie est fortifiée et située en haut. Où, des déesses, il n'est rien d'autre à craindre que d'être dépouillé par la perfection et la justice humaine. On l'a dépouillé de la dignité, des droits humains qui garantissent l'émancipation individuelle et sociale qui, comme l'a fait bien compris le Nolin, n'existe que dans la mesure où elle est préservée par le pacte, dans le pacte social, ce que nous appelons pacte constitutionnel de nouveau, avec l'obligation pour chacun de le respecter, car il a la garantie que ma liberté commence dans le même temps que celle de tout un chacun, en droit et en devoir. C'est seulement sur ces bases de laïcité, culture de l'émancipation et l'égalité, que peut se construire une société plus juste et plus équitable, où chacun est protégé de l'abus de pouvoir, du clanisme familial, de la violence. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'ai pas tout à fait terminé cet article. J'espère vous avoir donné envie d'en prendre connaissance en totalité. Je rappelle que c'est un article rédigé par Maria Montello, professeur de philosophie, histoire, journaliste et essayiste et présidente de l'Association nationale de la libre pensée italienne, Giordano Bruno. Donc, je vous donne rendez-vous maintenant à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la libre pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine dès lundi 11h30.
Oh. et le tien, ton glaive.